Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes à Marseille jusqu'à 17h sur Europe 1. Et avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, nous allons vous dévoiler les bons petits secrets pour profiter de la vie. Alors tout à l'heure, vous avez révélé un endroit que Patrick Bosso ne voulait pas révéler, un accès à une plage merveilleuse.
On signale un embouteillage d'ailleurs depuis tout à l'heure. À l'entrée de la plage.
Oh, je le redis à l'antenne, c'est Calelongue et Marseille Vert. Voilà.
Et qu'est-ce que c'est, rappelez-nous?
Eh ben, c'est l'entrée des Calanques.
Mais il y a plusieurs entrées.
Alors il y a celle-là qui est l'entrée principale, c'est à l'extrémité de Marseille, parce que les Calanques c'est un parc national, un paradis naturel complètement sauvage et préservé qui s'étend entre Marseille et Cassis. Ça fait à peu près 20 km à vol d'oiseau, c'est tout 20 km. Ouais. Mais c'est un univers d'un dépaysement absolu. C'est quoi des Calanques déjà? Faut quand même le dire. Ce sont en fait des fjords. Oui, vous avez des fjords à Marseille, alors c'est pas les fjords de Norvège, c'est des fjords dans les falaises calcaires. C'est une succession de fjords, une ambiance complètement sauvage, il y a absolument aucune habitation et chaque fjord, chaque échancrure dans la côte a une physionomie différente, chacune a sa personnalité. Il y a un seul dénominateur commun entre toutes ces Calanques, c'est qu'elles sont toutes léchées par des eaux tantôt bleues, tantôt émeraudes. Ce sont des vrais paradis. Chacune.
Ouais. Et quand on peut se retrouver seul quelque part dans ces endroits, c'est absolument romantique.
Alors, pour les explorer, il y a plusieurs façons de faire quand même. C'est pas très simple parce que c'est vraiment un parc national, donc l'accès est un petit peu compliqué. Il faut se bouger un peu, il y a un petit côté sportif aussi pour les découvrir.
Ça se mérite.
Ça se mérite, exactement, Olivier. Alors, moi, je l'ai fait à pied. En deux étapes. Vous pouvez le faire, vous pouvez couper, vous faites 6 heures de marche le premier jour, 6 heures de marche le deuxième jour. On traverse tout le massif en suivant un sentier balisé. Et là, vous aurez une succession. Vous allez vraiment découvrir toutes les Calanques les unes après les autres avec des points de vue absolument exceptionnels. Et surtout, il y a le plaisir des sens. Je sais que vous êtes sensible, Philippe, l'odeur de la garrigue, le bleu de la Méditerranée, le calme absolu et des panoramas absolument somptueux. J'insiste vraiment là-dessus parce que si vous êtes photographe, vous aurez des photos extraordinaires. La deuxième option, qui est un petit peu moins sportive, c'est possible de le faire aussi avec des excursions en bateau au départ de Cassis ou de Marseille. Là, vous allez passer un petit peu à la formule, j'appelle ça la formule un petit peu bateau-mouche, hein, vous passez d'une Calanque à l'autre. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas autorisé à débarquer dans les Calanques. Oui. Donc, vous les voyez de l'extérieur, c'est très beau aussi vu de la mer, mais vous n'avez pas le privilège de les visiter les unes après les autres. Vous les voyez un petit peu à distance. Alors, l'idéal, côté mer, c'est ce que j'ai fait également, c'est le kayak de mer. Alors
là, c'est votre truc, le kayak, c'est vraiment son truc. Hein.
Le kayak, pourquoi? Parce que ça vous permet vraiment de vous approcher au plus près de chacune de ces...
Jean-Bernard Carrier, vous faites le tour du monde en kayak.
Vous faites les bras aussi, hein. Vous faites les bras au passage.
Alors, c'est un peu les bras, et ça vous permet d'aller vraiment au contact. Moi, j'aime bien ce côté immersion, le côté effectivement physique, on est dans les Calanques, vous êtes au plus proche, et vous êtes vraiment avec le bruit de l'eau au plus facile. Voilà.
Et votre Calanque préférée, alors?
Alors, moi, j'adore la Calanque de Morgiou, parce qu'elle est habitée, c'est l'une des deux qui sont habitées. Alors quand je dis habitées, c'est quelques cabanons. Vous savez ce que c'est que les cabanons? C'est les petites maisons, les anciens abris de pêcheurs qui ont été reconvertis en petite habitation, à la petite terrasse, petite tonnelle. Donc il y a des petits cabanons, il y a un petit port de pêche miniature, toute petite plage comme je les aime bien, et un restaurant qui sert évidemment des plats de poisson, et notamment des bouillabaisse sur commande, mon cher Olivier.
Qui sont bonnes?
Qu'elles sont bonnes, elles sont pas mal du tout. Et puis voilà, donc vous promenez dans cette Calanque, elle est très longue, je l'aime bien parce qu'elle est aussi très profonde, très longue, elle fait presque plus d'un kilomètre de long, c'est vraiment un vrai fjord celle-là, très impressionnante.
Ça donne envie, on a envie d'y aller tout de suite.
Et on peut se baigner évidemment.
Et on peut se baigner dans cette petite plage-là justement. Ouais.
Et est-ce qu'on peut aller de sa table à la baignade et à la table et à la baignade?
Mais c'est le programme de la journée.
J'aime bien ce programme.
C'est exactement ça.
Pour digérer la bouillabaisse.
Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller en kayak à la Calanque de Morgiou. Elle a l'air relativement facile. C'est une des plus faciles d'accès. Mais il faut quand même marcher 50 minutes depuis le parking en haut. Voilà. C'est faisable quand même.
La rade de Marseille.
La rade de Marseille, pour vous qui êtes plongeur, c'est synonyme de plongée, tout simplement. Parce qu'il y a des épaves absolument magnifiques qui reposent au large de l'archipel de Riou. Il y a notamment un gros paquebot qui a fait naufrage en 1903, figurez-vous, qui s'appelle le Liban. Il repose entre moins 25 et moins 36 mètres de fond. C'est un monstre qui fait 90 mètres de long. C'est un paradis pour les plongeurs parce qu'il y a énormément de faune, de poissons, de congres, les fameux poissons qui servent à la bouillabaisse, entre autres. Il y a aussi des poissons un petit peu du large. On voit des barracudas, des dentis, des lâches, des liches et tout ça autour de ce monstre. En plongée, c'est vraiment un must à faire. Il y a une autre île que j'aime beaucoup, c'est l'île de Planier pour les plongeurs. Là, il y a trois épaves autour de cette petite île, dont une épave qui s'appelle le Messerschmitt. C'est un avion de chasse de 1944 qui a été coulé lors de cette guerre, Deuxième Guerre mondiale, et qui est à 45 mètres.
Et si vous écoutez bien Europe 1, c'est le seul endroit où on peut avoir à la fois des cigales et être sous l'eau. Vous entendez ?
Ouais, le mélange. Et pourtant, c'est pas des cigales de mer.
Vous savez ce qu'on, vous savez ce qu'on dit ? Marseille, c'est pas pareil.
Très rare, très très rare. Alors, Marseille, c'est
pas pareil.
C'est aussi une ville de culture.
Oui, hein. Oui.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à Marseille.
Il y a le fameux Mucem. Difficile de parler de Marseille sans parler du fameux Mucem qui a ouvert en 2013. C'est quand même relativement récent. Pendant l'année de la capitale européenne de la culture, le Mucem, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ce musée-là, il y a une architecture complètement dingue. Ça ressemble à une espèce de gros cube qui fait un gros carré qui fait 72 mètres de côté. C'est vrai que ça a fait sensation lorsqu'il a été inauguré en 2013. Et puis ce gros cube, une sorte de casbah verticale selon les termes de l'architecte qui s'appelle Rudy Ricciotti, bah ce gros cube, il est habillé de résille en béton, comme des barésilles, et sauf que c'est du béton tout autour.
Sexe.
Ça fait très bizarre dans le quartier Saint-Jean. Il y a le fort de Saint-Jean à côté et vous avez cette espèce d'architecture voilà, qui est quand même très surprenante, mais de très très belles expositions à l'intérieur. C'est consacré bien sûr à l'histoire de la Méditerranée, donc ça fait vraiment partie aussi de la culture marseillaise, la visite de ce musée. Et il y a plein d'expositions temporaires également, dont une en ce moment qui est consacrée à l'expo à l'Orient sonore, voilà, sur les traditions musicales autour de la Méditerranée. À ne pas louper, c'est jusqu'en février prochain.
Un autre monument qui vaut le détour ?
Ah, un monument qui laisse pas indifférent non plus. Celui-là, décidément, Marseille, tout est clivant. La cité radieuse du Corbusier, à deux minutes des plages du Prado, du stade Vélodrome. Vous en pensez quoi, vous, Nathalie ? Vous aimez pas, je crois,
non,
le Corbusier.
Non, je trouve ça un peu déprimant, mais enfin, c'est juste mon avis.
Voilà, donc c'est
je préfère aller au Château d'If.
Bon, je rappelle quand même ce que c'est que cette cité du Corbusier. C'est un espèce de gros HLM, si on peut dire. Ça ressemble à ça, qui fait 137 mètres de long. Il est sur pilotis. Et le Corbusier voulait en faire une ville à l'intérieur. Donc, vous trouvez tous les services à l'intérieur, et notamment un hôtel 3 étoiles dans lequel j'ai dormi. Vous avez une petite architecture un peu vintage. Tout est coloré. Les loggias sont colorées. C'est du béton brut. C'est très fonctionnel. Voilà, c'est un esprit. Je signale quand même que c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016, la cité radieuse du Corbusier, mon cher.
J'aime bien les choix que vous faites. Alors, Nathalie Hallal nous choisit un pétomane pour parler de Marseille. Vous, vous mettez en avant la cité radieuse.
Bah, heureusement qu'il y a la bouillabaisse pour sauver tout ça.
Chacun ses sales goûts, comme je dis toujours.
Bon, j'ajoute quand même, pour être un peu plus consensuel, il y a aussi le stade Vélodrome qui se visite. Ça fait partie aussi des étapes culturelles incontournables de la ville.
Merci Jean-Bernard Carrier.